Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour Pararon, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Un mot d'abord avant de commencer, un mot pour l'ami Denis Tillinac. Il est mort vendredi soir après avoir consacré encore une de ses journées à la littérature. Il participait vendredi à la fête du livre Livre en Vigne. Écrivain, on se souvient de Bonheur à Souillac ou L'été anglais, mais éditeur aussi, patron de la Table Ronde pendant de nombreuses années. C'était surtout un grand connaisseur de la littérature française. Je l'aimais bien, Denis Tillinac, avec son côté ronchon réac, mais très drôle et incroyablement érudit. Nos pensées pour sa famille et pour Aurillac en Corrèze avec un I, à ne surtout pas confondre avec Aurillac avec deux L. On va parler de livres, c'est le meilleur moyen de lui rendre hommage. Notre invitée aujourd'hui, Véronique Olmy, on l'avait laissé, souvenez-vous, avec l'irrésistible Bakita, énorme succès, on la retrouve avec une fresque des années 70. Nous écouterons un livre culte, bien sûr, nous lirons la première page des Odes Hurlevent d'Emily Brontë. Nous rendrons visite à Juliette, la chanteuse et poète. Il sera notamment en question de Colette, mais aussi des imbéciles, vous verrez. Direction Vaucresson, ensuite chez notre libraire de la semaine, et Victor Dolande fermera la boutique avec sa chronique jeunesse comme toujours. Mais d'abord donc, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. On l'avait laissé avec Bakita, son dernier roman sublime sur la vie de Joséphine Bakita, ancienne esclave devenue religieuse. On la retrouve avec Les évasions particulières, toujours chez son éditeur Albin Michel. Rien à voir, nous sommes en France, dans les années 70, à Aix-en-Provence, enfin juste à côté, et on suit le destin de la famille Malivieri, Agnès, la mère, Bruno, le père, et les trois filles, Sabine, Hélène et Mariette. On traverse une décennie de changements et on observe ces personnages se débattre avec leurs contradictions. Bonjour Véronique Olmy.
Bonjour.
Ça me fait plaisir de vous voir. Je vais faire une petite fausse ouverture. Un mot sur Bakita, puisque je ne vous ai pas revu depuis l'immense succès que ce roman a connu. C'est vrai que c'était beau et que c'était un très très beau personnage. Vous pensez à elle parfois ?
Bah oui, mais j'espère qu'elle pense à moi. Oui, on ne s'est pas vraiment quitté parce que, au-delà de l'écriture, c'était une leçon, une petite leçon de vie quand même, même si forcément la mienne n'a aucun rapport avec la sienne. Il y a des choses qu'elle m'a transmises et que je garde.
Alors, Les évasions particulières, c'est votre nouveau roman. Et la famille Malivieri, on la présente quand même, cette famille. Ils vivent juste à côté d'Aix-en-Provence. Ils ne sont pas pauvres, mais enfin, ils tirent quand même le diable par la queue. Lui est prof, mais il doit rembourser chaque mois une dette de son père qui avait inventé des caravanes pliables, mais qui, malheureusement, ne se dépliait pas. C'est quoi leur quotidien ?
Leur quotidien, c'est cette envie de créer une famille qu'ils n'ont pas connue, c'est-à-dire une famille aimante, une famille qui accompagne ses enfants, qui essaye de les mettre sur la bonne voie. C'est un couple de jeunes catholiques, je dis jeunes parce qu'ils sont mariés à 18 ans, donc ils ont eu leurs enfants très tôt. Et finalement, c'est aussi dans cette France post-68 en province, où la province était beaucoup plus éloignée qu'aujourd'hui de Paris, où il y a encore, De Gaulle, Pompidou, c'est une France corsetée, malgré 68.
Et intéressant à observer parce qu'ils ne sont ni riches ni pauvres en fait, ils sont plutôt, ils ne sont pas très à l'aise d'ailleurs, c'est un peu compliqué pour finir la fin du mois, mais du coup, ils ont pas d'aspérité qui pourrait nous empêcher de voir ce qui se passe à ce moment-là dans la société.
Oui, c'est ce qui m'intéressait. Moi, j'avais envie d'écrire un roman sur le retentissement. C'est-à-dire un roman qui ne se passe pas en 68, qui ne se passe pas à Paris, qui ne se passe pas chez des gens convaincus. J'avais envie d'explorer dans le temps comment chacun peut heureusement évoluer et être sensibilisé et influencé par ce qui se déploie autour d'elle dans les avancées de la société. Et donc c'est vrai que ça m'a intéressé de voir cette complexité chez des gens qui sont ni riches ni pauvres, qui sont entre deux. Ce sont des gens qui font attention. Il y a pas une, il y a des ouvertures, mais qui se font avec parcimonie, que ce soit acheter des disques, acheter des livres, mais il y a le bienfait des bibliothèques, il y a des tas de choses qui sont possibles. Mais ce que je voulais, c'était voir comment ça se déployait avec les trois filles qui vont, elles aussi, déblayer finalement aussi le chemin pour leur mère.
Ah ben justement, j'allais y venir. Il y a les trois filles, bien sûr. Les trois sœurs, Sabine, l'aînée, qui rêve de partir pour Paris, justement, qui rêve de théâtre. Mariette, la petite dernière, qui est un peu souffreteuse, comme ça. Et puis Hélène, il faut qu'on s'arrête sur Hélène quand même, parce que c'est particulier son cas.
Ben, c'est mon cas, en fait.
C'est votre inspiré de votre vie.
Voilà.
Alors racontez aux auditeurs parce que c'est fascinant.
Alors en fait, c'est vrai que ce roman, c'est plein de fragments autobiographiques. Il commence par cette phrase « Hélène revenait d'un autre monde ». Et c'est vrai que la première phrase est l'impulsion, souvent, enfin toujours pour moi, pour écrire un roman. Et Hélène, c'est moi, c'est cette petite fille de 3 ans, avec son ciré rouge, son chapeau de pluie assorti, et qui a sa petite étiquette autour du cou. Alors, dans les années 70, parce que quand le roman commence, elle a 11 ans, donc ça fait 8 ans qu'elle fait ses allers-retours. Donc moi, c'était dans les années 65, quand j'ai commencé à 3 ans. Il n'y avait pas beaucoup d'enfants non accompagnés dans les avions. Et elle se partage comme ça entre le foyer de son oncle, qui est riche.
À Paris,
qui vit à Neuilly. Et son père, le foyer de son père, qui est plutôt, qui compte quand même les fins de mois, et qui vit à Aix-en-Provence. Et il y a cette aide de l'oncle envers le père. Il y a un chèque qui vient tous les mois. Et c'est étrange parce que moi, je garde un souvenir heureux de ces deux pôles, parce que d'abord j'étais aimée dans les deux familles, mais j'ai demandé une fois à une de mes sœurs, mais quand je rentrais, qu'est-ce que vous faisiez? Et elle me dit, j'ouvrais ta valise. Et donc je l'ai mis dans le livre, parce que moi je n'en ai pas de souvenir. Je lui dis, c'est étrange, elle ouvrait ma valise et vraiment je revenais d'un autre monde, qu'est-ce qu'elle rapporte? Et il y a ces dialogues entre...
Parce que Hélène et donc vous revenez avec des robes neuves, parce que ce sont des gens riches à Neuilly.
Moi j'ai eu la chance d'avoir des habits et des chaussures neuves, qu'on m'offre un poney pour mon anniversaire, qu'on aille faire les soldes.
Ah oui, même le poney, c'est vrai, ouais, d'accord.
Ah oui, le poney, le chien, tout ça est vrai.
Mais donc, elle passe toutes ses vacances là-bas, quoi, tout l'été et tout ça. Mais, mais en fait, on ne sait pas pourquoi elle et pas sa sœur aînée et pas sa petite sœur, c'est fou.
À un moment, elle le dit dans le livre, elle dit, mais en fait, c'est moi qui ai choisi. Parce qu'elle se demande effectivement, mais pourquoi elle? Comment est-ce que ça s'est décidé? À quel moment? Selon quels critères? Et puis, elle a un lien, j'avais un lien très, 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 très fort avec cet oncle. Et à un moment, elle se dit, mais en fait, non, c'est moi qui ai choisi. Vous savez, comme on dit souvent, les enfants à naître choisissent, on y croit ou pas, mais enfin, choisissent le foyer dans lequel ils vont décider de vivre et de grandir. Et moi, je pense que j'ai dû choisir. En fait, je fais partie d'une famille catholique. Les familles nombreuses, moi j'ai 36 cousins quand même. On est très nombreux. Et il fallait... Moi, j'ai toujours essayé d'être, par exemple, auprès de ma grand-mère, la préférée. Il faut se démarquer quand même, hein, parce qu'on est très nombreux, on veut exister. Et je pense que j'ai choisi, en fait, de me partager entre ces deux familles. Je pense que c'était plus douloureux pour ma mère, par exemple. Enfin, je le sais.
Et oui, parce qu'il y a plein de choses là-dessus. On va pas faire toute l'émission là-dessus, mais sur ce cas-là. Mais c'est très compliqué pour la mère d'accepter que sa fille, en fait, parte comme ça chez des gens riches. Mais ça l'arrange d'une certaine manière aussi.
Voilà,
mais
alors il y a l'argent au milieu. L'argent, c'est intéressant.
Voilà, c'est là où je voulais en venir, parce que cette situation-là, ça permet aussi de créer cette distinction entre ces deux mondes et avec la question de l'argent. Et vous la soulevez très bien dans le roman, cette question-là, parce que c'est pas seulement la distinction sociale, mais c'est aussi la frustration que génère l'argent ou la tranquillité qu'il apporte. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, certes, mais ça aide. Et il y a cette manière de dire dans le roman que l'argent, c'est important, que ça permet,
ça aide à vivre. C'est-à-dire que l'argent, ça résout les questions avant qu'elles se posent. Et quand vous n'en avez pas, ce ne sont que des questions. Comment faire? Est-ce que je vais y arriver? Quelle solution trouver? Comment on va se débrouiller? Quand vous avez de l'argent, les questions n'existent pas. C'est résolu avant d'apparaître. Et donc, c'est quand même une tranquillité d'esprit qui est irremplaçable. On ne s'en rend pas compte quand on n'a pas d'argent. Moi, je me souviens, cette tante avait fait livrer à ma mère, nous on était 5 enfants, une machine à laver la vaisselle. Mais on ne s'en est pas servi. parce que maman ne pouvait pas payer l'installateur.
Ah, oui.
Quelqu'un de riche ne pense pas à ça.
On connaît un peu mieux les personnages, on va les suivre maintenant dans les bouleversements des années 70. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Caro.
Retour dans La Voix est libre, toujours avec Véronique Olmy qui publie Les évasions particulières. C'est chez Albin Michel, l'histoire d'une famille dans les années 70. Ses trois sœurs, en particulier Sabine, Hélène et Mariette, qui vivront chacune à leur manière les changements des années 70. Des changements en particulier pour les femmes à cette époque-là, Véronique Olmy.
Oui, c'est la grande décennie des décisions primordiales pour les femmes, puisque c'est la maîtrise de leur corps avec la légalisation de l'avortement et de la contraception, parce que la France vivait sous la loi de 1920, qui est la loi post-Première Guerre mondiale, où il fallait repeupler la France. Et c'est quand même fou quand on pense que l'avortement était un crime contre la sûreté de l'État. Et je trouve que cela dit tout. À qui appartenaient les femmes? À l'État.
Vous évoquez l'affaire Gabrielle Russier dans le roman. Vous faites plus que l'évoquer, d'ailleurs. Vous la racontez comme une histoire très symbolique, en fait, de ces bouleversements. Vous nous la racontez?
L'affaire Gabrielle Russier, c'est une affaire qui se passe justement entre Aix-en-Provence et Marseille. C'est après 68 où les professeurs faisaient venir chez eux, professeurs de lettres ou de philo, faisaient venir chez eux les élèves et puis voilà, on discutait. Ça, c'était très nouveau que ça s'ouvre comme ça, qu'il y ait ce lien entre l'établissement scolaire et l'intimité privée. Et il y a cette jeune professeure, Gabrielle Russier, qui a deux enfants, elle a 32 ans, elle a deux enfants et elle est en instance de divorce et elle tombe amoureuse d'un de ses élèves qui est mineur, qui a 16 puis 17 ans. Et en fait, elle enseigne à Marseille. Et ce qui est étrange, c'est que les parents du jeune homme, qui sont un couple d'enseignants dans la fac de lettres, Aix-en-Provence, très engagés, communistes, enfin voilà, donc on pourrait penser très ouvert d'esprit, en fait ne supportent pas cette relation, portent une plainte pour détournement de mineurs, font interner leur fils en hôpital psychiatrique. Gabrielle Russier fait de la prison à la prison des Baumettes. Et puis, en fait, entre deux incarcérations, elle va se suicider. Et ce dont je parle dans le livre, c'est plus tard, quand sort le film d'André Cayatte, Mourir d'aimer avec Annie Girardot, parce que quand le film est sorti à Aix, qui était le lieu brûlant de ce choc, moi j'ai eu un autre choc. C'est-à-dire que j'ai découvert que l'amour pouvait être un scandale. Et pour moi, l'amour, c'était simplement les parents. Je ne connaissais pas d'autres modèles.
C'est drôle que vous disiez moi, alors que je pensais que vous alliez me dire Sabine, qui est l'aînée et qui découvre en fait cette histoire-là, comme vous venez de le décrire.
Parce qu'en fait, je l'avais déjà un peu exploitée, si je puis dire, dans ma pièce de théâtre Mathilde, puisque je parlais d'une prof qui donne des ateliers d'écriture et qui a une relation avec un élève mineur. Et c'est vrai que c'est une histoire qui m'a profondément marquée parce qu'elle ouvre tous les possibles.
Alors, Agnès, la mère, est intéressante de ce point de vue-là aussi, parce qu'on parle de charge mentale aujourd'hui. Là, on est en plein dedans hein, pour Agnès.
Ouais.
Et puis, donc, elle a un peu plus de 30 ans et en fait, elle a perdu sa jeunesse. En tout cas, c'est l'impression qu'elle a. Et alors, c'est intéressant parce que donc, on est en pleine émancipation des femmes. Mais elle, d'une certaine manière, c'est elle qui s'est enfermée dans son propre servitude. Et elle va essayer de s'en libérer dans le roman.
Parce que les femmes avaient elles avaient des injonctions très très fortes. Elles étaient, d'abord, on n'existait que si on était marié, donc il fallait se marier. Et ensuite, on suivait, par exemple, De Gaulle, après la Seconde Guerre mondiale, avait dit il faut que les femmes fassent 12 millions de beaux bébés. Les femmes sont là comme des ventres. Et donc, elle a envie, avec l'homme qu'elle aime, elle a épousé, ils sont amoureux tous les deux, elle a envie d'avoir des enfants et de bâtir une famille, mais elle se rend compte qu'en fait, c'est aussi une prison, d'abord parce que les enfants s'en vont, d'abord parce qu'elle a envie d'autre chose, et puis la société bouge autour d'elle, elle voit les femmes qui sortent et elle voit cette femme magistrate qui
Laurence.
Est ministre.
Ah non.
Elle a cette amie, Laurence, c'est ça. En fait, je voulais qu'il y ait des influences, et les influences qui nous sauvent, qui nous bouleversent, qui nous choquent, avec lesquels on peut être au début en contradiction, et puis ça infuse, ça nous influence.
Justement, cette Laurence qu'elle rencontre dans des circonstances qu'on ne peut pas raconter, mais qui sont magnifiques, Laurence, c'est l'inverse, quoi. C'est une femme libre, et elle lui sert un peu de guide aussi, d'une certaine manière.
Oui, parce que Aix-en-Provence, là où se situe une partie du roman, c'est une ville à la fois de province, mais à la fois avec ses facultés de lettres, où il y avait un fort mouvement de contestation en 68, et puis ce palais de justice, où il y a parmi les plus retentissants procès, avec Gisèle Halimi, le procès du Mlac, le procès dit du viol. Et puis donc, il y avait beaucoup de mouvances très progressistes à Aix. Le mouvement du Mlac à Aix était très, très important. Et donc, c'est vrai que Agnès, la mère de famille, va rencontrer cette femme avec qui elle va avoir une amitié très forte et qui va, avec qui elle ne sera pas toujours d'accord, c'est ça qui m'intéresse, et qui va l'influencer beaucoup.
On parle d'émancipation, on se rend compte aussi en vous lisant, en lisant le roman, que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et d'une certaine manière, je me trompe peut-être, mais la morale aussi du livre, c'est de dire ça n'a pas changé grand-chose finalement. Ce n'était pas ça le plus important. Ce qui n'a pas changé, c'est les injonctions sociales, etc. Ça ne s'est pas fait tout d'un coup, tout le monde est devenu libre.
Alors, on est loin d'être libre. Je pense que c'est fondamental la libération de la légalisation de l'avortement, de la contraception, d'arrêter de ficher les homosexuels dans les préfectures. Il y a beaucoup de choses au niveau de l'intimité de chacun. Ensuite, c'est vrai que c'était au moment où la société de consommation a explosé et le corps des femmes a été combien utilisé pour la société marchande, pour les publicités, avec des injonctions à être toujours un objet de désir. Et ça, c'était un autre enfermement dont on commence tout doucement à sortir.
C'est pas non plus un roman comme ça, qui ne suit que des femmes et qui ne s'intéresse qu'aux femmes. En fait, c'est un roman qui s'intéresse à la société de cette époque-là et aux hommes aussi, avec le père Bruno, qui est un très beau personnage, qui subit un peu. Il est bien, je l'aime bien, parce qu'il a un côté... c'est pas l'ancienne école contre la nouvelle. Il prend la société comme elle est, il regarde ces changements-là, mais c'est pas de l'indifférence non plus, mais ça le dépasse d'une certaine manière.
Oui, ça le dépasse. C'est vraiment le personnage de mon père pour qui j'ai évidemment énormément de tendresse et que j'ai vu plein de cet amour et de cette tendresse pour ses filles, pour sa femme, et empêché totalement de les suivre, de les comprendre, et malheureux de cet empêchement. Et donc c'est un homme qui a eu lui aussi des injonctions très fortes, parce qu'on dit les femmes, mais les hommes aussi, il fallait qu'il soit chef de famille, il fallait qu'il ne pleure pas, il fallait qu'il dirige, il fallait qu'il protège, il fallait qu'il soit fort. Et donc c'est compliqué quand on dit, mais en fait cette place-là, tu es un chef sans royaume.
Aix-en-Provence, vous y avez vécu, est-ce que c'est compliqué d'écrire sur ce sujet dans un coin où on a grandi justement, ou alors est-ce que ça a été une replongée dans les souvenirs d'enfance très agréable?
Alors, c'est un peu compliqué, à vrai dire, parce que c'est vrai que nous, on vivait réellement à la petite Chartreuse, qu'il y a des tas d'éléments autobiographiques, mais il n'y a aucun de mes frères et sœurs, par exemple. Ma mère n'est pas ma mère. Alors, c'est complexe parce que... c'est un sujet sensible. En même temps, j'ai redécouvert ma ville parce qu'il y a grâce au livre, à la documentation, j'ai vécu dans ma ville des événements que je n'avais pas vécu, comme ce procès avec Gisèle Halimi, ou le procès des inculpés du Mlac. Il y a des tas de choses dans cette ville qui ont été magnifiques et que moi je n'ai pas vues. Donc je l'ai retrouvé, c'était bien.
Dans le roman, le père, à un moment, pose une tapisserie, mais il inscrit d'abord sur le mur « Ici ont vécu des gens ». J'ai bien aimé.
Et dans pris au Tchétchène, ça, imaginez-vous.
C'est-à-dire ?
Parce que quand il y a eu le premier, ce qu'on appelle conflit en Tchétchénie, avant que les Russes débarquent et cassent tout, comme font les gens, hélas, les militaires en temps de guerre, eh bien, les Tchétchènes faisaient deux choses. Ils fermaient la porte à clé, ce que je trouve incroyable, et ils avaient l'élégance d'écrire à la craie sur la porte « Ici ont vécu des gens ».
Et dans ce roman, vivent des gens, les évasions particulières chez Albin Michel. Restez avec nous, Véronique Olmy. Dans un instant, on lit un grand classique que vous aimez, j'en suis sûr, « Les Hauts de Hurlevent » d'Émilie Brontë. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La voie est libre.
La voix est libre, le retour, il est l'heure du livre culte. J'ai choisi Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. Cette semaine, quel titre déjà, ça sonne Les Hauts de Hurlevent. Je dis Emily Brontë, mais je devrais dire Élise Bell, puisque c'est le pseudonyme qu'elle a utilisé à l'époque. Publié en 1847, c'est son unique roman. Et pour cause, elle meurt un an plus tard de la tuberculose. Les Hauts de Hurlevent ne passe pas inaperçu à l'époque, mais c'est pas non plus un raz-de-marée. C'est bien plus tard qu'il sera reconnu comme un chef-d'œuvre et son auteur comme une grande romancière. C'est une histoire romantique au sens du mouvement artistique, très noir, donc sans espoir presque, encore que. Nous sommes dans le Yorkshire, dans la famille Earnshaw. Deux enfants, Hindley et Catherine. Un jour, Mr. Earnshaw revient avec Heathcliff. Il y a des noms en anglais, là, c'est compliqué. Avec Heathcliff, donc un gamin, un bohémien abandonné qu'il a décidé d'adopter. Or, Hindley, le fils, ne supporte pas la présence de Heathcliff, contrairement à Catherine, qui se lie d'amitié avec lui et, les années passant, voit ce sentiment grandir. Enfin, je vous la fais courte, c'est une tragédie. Vous avez compris que Catherine et Heathcliff ne vont pas nager dans le bonheur. Et dans le cas d'Heathcliff, il va même s'enfoncer très profondément dans les ténèbres. Écoutez la première page du roman, lue par le très britannique Philippe Dussault.
1801. Je viens de rentrer après une visite à mon propriétaire, l'unique voisin dont j'ai à m'inquiéter. En vérité, ce pays-ci est merveilleux. Je ne crois pas que j'eusse pu trouver, dans toute l'Angleterre, un endroit plus complètement à l'écart de l'agitation mondaine. Un vrai paradis pour un misanthrope. Et M. Heathcliff et moi sommes si bien faits pour nous partager ce désert. Quel homme admirable! Il ne se doutait guère de la sympathie que j'ai ressentie pour lui quand j'ai vu ses yeux noirs s'enfoncer avec tant de suspicion dans leur orbite au moment où j'arrêtais mon cheval et ses doigts plonger avec une farouche résolution encore plus profondément dans son gilet, comme je déclinais mon nom. « Monsieur Heathcliff » ai-je dit. Un signe de tête a été sa réponse. « Monsieur Lockwood, votre nouveau locataire, monsieur. Je me suis donné l'honneur de vous rendre visite aussi tôt que possible après mon arrivée, pour vous exprimer l'espoir de ne pas vous avoir gêné par mon insistance à vouloir occuper Thrushcross Grange. J'ai entendu dire hier que vous aviez quelque idée. »« Thrushcross Grange m'appartient, monsieur, » a-t-il interrompu en rejambant. « Je ne me laisse gêner par personne quand j'ai le moyen de m'y opposer. Entrez. » Cette « entrée » était prononcée les dents serrées et exprimait le sentiment « aller au diable ». La barrière même sur laquelle il s'appuyait ne décelait aucun mouvement qui s'accorda avec les paroles. Je crois que cette circonstance m'a déterminé à accepter l'invitation. Je m'intéressais à un homme dont la réserve semblait encore plus exagérée que la mienne. Quand il a vu le poitrail de mon cheval pousser tranquillement la barrière, il a sorti la main de sa poche pour enlever la chaîne et m'a précédé de mauvaise grâce sur la chaussée. Comme nous entrions dans la cour, il a crié
« Joseph, prenez le cheval de Monsieur Lockwood et montez du vin !»
C'était la première page des Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë, lue par l'excellent comédien Philippe Dussault. Et vous, Véronique Olmy, c'est quoi votre roman culte?
Ah, je crois que c'est Madame Bovary.
Ah.
Parce que Madame Bovary s'actualise à chaque lecture, pas seulement parce que moi je grandis puis vieillis, mais parce que c'est un roman qu'on peut lire à plein de niveaux, au niveau de la place de l'auteur dans le livre. Flaubert voulait être comme Dieu dans ses livres partout mais invisible, donc qu'on ne voit jamais ce qu'il pense, que ce soit jamais subjectif. Et puis le style qui est un modèle de concision, de simplicité, et de méchanceté dans le sens de pointer des flèches partout, là où il y a pas seulement la bêtise, mais les dérives de la société, l'armée, la religion, le commerce, le mariage. Et puis ce portrait de femme qui est magnifique et qu'on peut lire à des tas de niveaux, parce que Madame Bovary, qui a donc quand même susciter un procès pour atteinte aux bonnes mœurs. Madame Bovary, c'est pas seulement l'histoire d'une femme. Je trouve que le mot bovarisme est honteux parce que dans le dictionnaire, c'est une hystérique, c'est une femme frustrée, mais c'est pas ça, Madame Bovary. Madame Bovary, c'est aussi, bon, c'est une femme à qui on a, j'allais dire vulgairement, bourré le mou avec des lectures, Paul et Virginie, Le Prince Charmant, l'amour, voilà, comme on fait encore aujourd'hui, soit par le biais de romans, soit par le biais de magazines qui sont terribles pour les jeunes filles. Donc on lui a on lui a présenté une société tout d'un coup qui elle allait être délivrée par le mariage, par cet épanouissement, par la maternité. Et puis c'est une femme qui rêve plus haut. Elle a des rêves plus haut. Elle a envie de choses qui la font courir. C'est une femme qui court, Madame Bovary, qui court physiquement, qui court vers ses amants, qui court vers ses rêves, qui court vers le désespoir, vers le suicide. Et elle a tout faux. C'est une mauvaise épouse, c'est une très mauvaise mère, c'est une mauvaise croyante, c'est une mauvaise chrétienne. C'est une bonne amante. C'est une femme d'une sensualité, mais c'est dingue ce qu'écrit Flaubert. Mais elle est au-dessus, c'est le cas de le dire, de ses amants. Et je la trouve pathétique et en même temps tellement vivante. Et c'est vraiment un livre qui se situe entre ce qu'est le rêve et la réalité.
Bah dites donc, c'est une histoire d'amour avec ce livre.
Ah oui.
Vous restez avec nous, Véronique Olmy. Dans un instant, on part visiter une bibliothèque, celle de Juliette, la chanteuse et poète et grande lectrice.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
La Voix est libre continue toujours avec Véronique Olmy. Les évasions particulières, c'est le titre de son nouveau roman. Il est l'heure de visiter les livres des autres. Juliette, la chanteuse, habite du côté de Toulouse, mais aussi un petit peu à Paris de temps en temps. Elle propose en ce moment un concert d'ailleurs avec l'orchestre Tango Sil Bando. Les deux prochaines dates, c'est le 1er octobre à l'Estival de Saint-Germain-en-Laye et le 2 à Audi-Sud, Blagnac. Et tout de suite, c'est chez elle à Paris. Bonjour Juliette.
Bonjour.
Merci de nous recevoir dans votre pied-à-terre à Paris.
Oui, c'est ça.
Ce n'est pas votre vraie maison.
Ce n'est pas ma vraie maison ici. C'est mon pied-à-terre, ça s'appelle comme ça.
Parce que d'habitude, vous êtes plutôt du côté de Toulouse, c'est
exactement,
ça ?
Exactement, je suis dans le sud-ouest,
oui. Dans une grande maison avec plein de livres.
Dans une grande maison avec des je sais pas, mais il y a... Je pense qu'on devrait pouvoir compter en milliers de bouquins, ouais.
Ah oui, ouais. Ça commence à faire.
Il y en a dans toutes les pièces de la maison. Partout, il y a des livres.
Mais parce que vous êtes incapable de trier, même... ou parce que vous les aimez tous, ou parce que vous...
D'abord, parce que j'ai une grande maison dans une partie de laquelle habite ma maman.
Ah, d'accord.
Et ma maman est une lectrice compulsive, on va dire. Et donc, il y a sa bibliothèque depuis. Et je pense qu'il y a des bouquins. Moi, je suis née en les ayant vus. Vous voyez, donc je les vois, des vieux livres de poche, des trucs comme ça qui sont toujours là. Donc il y a des bouquins absolument partout dans toutes les pièces de la maison.
Et c'est comme ça que vous avez commencé à lire ?
Oui, absolument.
C'était quoi le premier livre ?
C'est ma mère qui m'a transmis le virus. Le premier livre que j'ai lu par moi-même, c'est Les Malheurs de Sophie, la comtesse de Ségur. Bien sûr.
Classique.
Bah oui, un classique. Ah, oui.
Donc là, on est dans un tout petit appartement, mais il y a quand même pas mal de livres proportionnellement à la taille de l'appartement.
Bah, il y en a parce qu'il y en a partout. Je ne peux pas vivre sans livres. D'abord, c'est un excellent isolant phonique.
Il faut quand même que je décrive, parce que c'est comme on se l'imagine. Hein. On est un peu dans une série B des années 50, un peu détective. Il y a une vieille machine à écrire.
Oui, ça, c'est des accessoires de scène que j'ai gardé.
Il y a un téléphone
à l'ancienne. Un vieux téléphone à cadran, ouais.
Et une bouteille
à côté,
de whisky.
Et à côté, une bouteille de on ne donnera pas la marque, mais plutôt américain comme whisky.
Oh, c'est un Jack Daniels, quoi.
Voilà, d'accord, très bien. Mais oui, mais c'est mon côté mise en scène. Puis à côté, il y a la photo de Colette, vous remarquerez.
Mais la bouteille, elle est là juste pour faire beau.
Non, elle se boit de temps en temps.
Ah, quand même.
Mais pas souvent, j'ai ça pour...
Il faut changer la déco, quoi.
Quand je reçois des gens, mais comme c'est l'après-midi, je ne vais pas vous proposer un whisky à cette heure-ci, ça ne se fait pas.
Venons-en au livre. On va commencer par cela. Après, vous me raconterez quand même ce qu'il y a dans votre maison
au 10 000 volumes. Oui, parce que mes vrais bouquins d'amour ne sont pas ici, forcément.
Il y a quand même des choses intéressantes. C'est quoi ce petit fascicule-là ? Auriez-vous eu le premier prix de grammaire en 1890 ?
C'est drôle, non, comme truc ? C'est toute une série de bouquins qui ont été... des petits cahiers comme ça qui ont été réédités il n'y a pas si longtemps. J'achète ça pour dans le train. Allez-y, on rigole.
On accordera comme il convient les termes entre parenthèses.
Ça commence bien.
Première phrase. Au-dessus d'un joli nid de fauvettes pendaient deux belles roses, entre parenthèses, frais et clos, et tout humide de rosée. Alors, comment on conjugue frais et clos ? Donc, au-dessus d'un joli nid de fauvettes pendaient deux belles roses.
Moi, je dirais frais et close, mais je ne suis pas sûre. Je pense que c'est... Fraîche et close me semble bizarre à l'oreille.
Là, je sèche aussi, moi.
Il y a la solution sûrement à la fin, mais je ne sais pas. Alors, le temps qu'on la trouve, on y est pour 2 heures.
Oui. Fraîche et close.
C'est fraîche et close. Bon, ben, autant pour moi.
Je ne sais pas si on fait la liaison, du coup.
Fraîche et close, peut-être. Bon, ben, tant pis. Alors voilà, encore une fois, j'aurais pas eu mon brevet, mais ça, je vous l'avais dit. Hein. J'ai pas menti.
Il y a un livre sur Colette aussi, de Jean Descartes, Colette et Monaco.
Oui,
et il y a une photo,
c'est un cadeau,
aussi.
Ça. Alors Colette, oui, parce que Colette, ça fait partie de mes livres de chevet. D'ailleurs, j'en ai un juste à côté. J'ai deux intégrales de Colette.
Oui, c'est la version bouquin chez Robert Laffont.
Absolument. Je l'ai en double. Hein. Je l'ai ici et je l'ai dans le sud, celle-là. ça me quitte pas, ça. C'est un truc que j'ai toujours sous la main. Alors, donc, Colette. Vous voulez qu'on parle un peu de Colette en vitesse,
ouais.
Hein.
Ouais, ouais. Quelle classe elle a quand même là.
Mais c'est parce que, voilà. Alors, je vais dire un truc, en fait. Hein. Je l'aime pas tellement comme romancière. J'aime pas les histoires qu'elle raconte. Je m'en fous complètement. C'est assez bourgeois. Enfin, c'est un peu désuet. En plus, ça m'intéresse pas trop. En revanche, je vais faire bondir des gens, mais c'est pas grave. En fait, c'est un plaisir de grammairien pour moi, Colette. C'est le plaisir de la langue, c'est le plaisir du français qui est là, en fait, qui est tout le temps là, qui est beau, qui est...
C'est chiadé, quoi.
Pas, c'est plus que ça, c'est mieux que ça. C'est-à-dire que si c'était, comme vous dites, chiadé, ça serait presque complexe, etc. Or, c'est un écrivain qui a... Une écrivaine, ou une écriviste, si vous voulez, qui a toujours le mot juste au bon endroit. Et... qui ne fait pas de périphrase s'il n'y a pas besoin d'en faire. Juste un adjectif peut suffire. Et on va parler de... En plus, voilà, enfin, y a plein de choses que j'aime chez elle. C'est sa connaissance aussi, sa connaissance profonde de la nature et de la campagne. C'est quelqu'un qui est né à la campagne. C'est pas un retour à la nature. C'est une grammaire aussi chez elle, ça. Et moi, ça me plaît quand on appelle les plantes par leur nom, quand on les connaît.
Quand on dit pas la fleur, mais qu'on dit la scabieuse, par exemple.
Oui, ou bien voyez, par exemple. Et ça, j'adore. Mais on va aller plus loin, c'est-à-dire que plutôt que de dire voilà, c'est une fleur qui a des pétales qui font ça, etc. On va l'appeler chevelue. On va dire la.
Oui, d'accord.
Vous voyez ça, cet état d'esprit.
Une métaphore qui parle bien, quoi.
Ouais, mais un simple adjectif suffit, en fait. Et souvent, chez Colette, un simple adjectif suffit, mais c'est celui-là et pas un autre. Et ça pète à la gueule tout le temps. C'est ça que j'adore chez elle.
Et vous aimez la femme aussi, j'ai l'impression.
Alors, elle me fascine beaucoup et je l'aime énormément parce que j'aime cette façon d'avoir été, en tout cas, libre complètement, d'avoir fait ce qu'elle a voulu, comme elle l'a voulu, sans être une militante. C'est-à-dire que elle a aimé, ça vient du fait aussi que sa mère, par exemple, a toujours accepté telle qu'elle était. Donc, elle n'avait pas besoin de se battre contre ça. Et je crois que c'est important, les gens qui sont élevés comme ça, avec une acceptation de ce qu'ils sont par leurs parents, c'est sans doute la plus belle chose que les parents peuvent donner à leur enfant, c'est de les laisser libres de ça, d'être ce qu'ils sont.
Ah, il y a Manuel de survie à l'usage des incapables de Thomas Gunzig, auteur belge qu'on adore à la voix.
Ouais, ouais, mais ça je l'ai lu dans le train, par exemple. C'est un bouquin de train, ça. Le titre m'a tapé dans l'œil, évidemment, donc j'ai acheté, puis je l'ai lu, puis j'ai trouvé ça super, super bien, quoi.
Ah, Bukowski, au sud de nulle part.
Bukowski, c'est incontournable.
Ouais, pourquoi vous l'aimez?
De la même manière que le Jack Daniel's, quoi. C'est un whisky littéraire, monsieur.
C'est bien dit, ça.
Mais non, c'est formidable. C'est tellement plein d'humanité, de noirceur et de désespoir, et en même temps tellement, tellement ça, quoi.
Et poétique.
Et poétique, absolument.
Bukowski, on rappelle, auteur américain qui décrit la dèche et
en général, ouais. Alors, je suis assez... ça se constate peut-être pas beaucoup dans cette semi-bibliothèque, mais je suis quand même beaucoup plus littérature étrangère que littérature française.
Ah oui, pourquoi ?
J'aime bien qu'on me parle du monde. J'aime bien qu'on me parle du monde, qu'on me raconte des histoires que je connais pas, de pays que je connais pas. C'est pour ça, Bukowski, c'est pour ça qu'un de mes romans fétiches absolus, celui que je pensais avoir dans cette bibliothèque, mais que j'ai offert il y a pas longtemps, c'est La Conjuration des imbéciles de Kennedy Toole, John Kennedy Toole, qui est mon livre de chevet, mon livre adoré que j'aime, avec Les Cent ans de solitude de Garcia Marquez. C'est mes deux livres qui sont d'un côté et de l'autre de mon lit en général. Et la Conjuration, c'est un bouquin que j'offre aux gens en me disant, si jamais Hervé, en me disant, j'aime pas ça, je lui parle plus.
Pareil, tout pareil.
J'adore ce livre, est incroyable. Alors,
racontez-nous l'histoire d'Ignatius Aurei.
C'est difficile
de raconter, mais c'est
difficile de raconter l'histoire d'Ignatius. Hein. C'est un personnage étonnant de misanthrope, déçu de l'humanité. Totalement persuadé qu'il est au-dessus du lot, bien sûr, assez insupportable en même temps, et qui habite à la Nouvelle-Orléans, ça se passe dans les années 60, et qui est une espèce de gros feignant, quoi, en même temps.
C'est-à-dire gros loser qui vit chez sa mère.
Qui vit chez sa maman. Sa maman est insupportable aussi.
Ouais.
Enfin, tout le monde est assez insupportable, en fait, dans ce bouquin. Mais moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est justement d'avoir mis en scène un personnage principal qui soit aussi insupportable, et en même temps avec lequel on a envie d'avoir de la sympathie tout le temps. Et c'est difficile, hein. Il faut y mettre du sien.
Juliette, du coup, je l'ai souvent raconté à l'antenne, mais j'aimerais bien que vous nous racontiez l'histoire de l'édition de La Conjuration des imbéciles, qui est magnifique aussi. Qui est presque un roman en soi.
Qui est presque un roman en soi, c'est-à-dire que John Kennedy Toole, il écrit ce roman, il a une vingtaine d'années, ça lui prend, je suppose, quelques temps de sa vie, et puis il le présente à des éditeurs, il est refusé strictement partout, donc il pense qu'il est un auteur de naze, Et bah, il va se suicider. Puis il va se suicider en plus d'une sale manière. Parce que je pense qu'il s'est suicidé en se mettant dans une voiture et en mettant le tuyau d'échappement à l'intérieur de la voiture. Quoi, voyez, avec, bon, bref. Donc il se suicide et sa maman, elle accepte assez difficilement cette situation et donc va courir les éditeurs à son tour. Et elle en rencontre un à qui elle envoie le livre et qui trouve que ce livre est génial et qui va l'éditer et il aura le prix Pulitzer.
La même année.
La même année,
complètement
voilà.
Fou.
Ouais. Un truc de dingue. Et puis, j'aime aussi une chose absolument formidable, mais qui est tellement... c'est l'exergue de ce bouquin, c'est la citation au début, la phrase dit « On reconnaît un génie en ce monde à ce signe que les imbéciles se sont ligués contre lui. »
Merci Juliette.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Retour en studio, toujours avec Véronique Olmy. Et je rappelle les deux prochaines dates pour Juliette avec l'orchestre Tango Silbando. Le 1er octobre à l'Estival de Saint-Germain-en-Laye et le 2 à Audessud, Blagnac. Et vous, Véronique Olmy, elle est comment, votre bibliothèque? Est-ce que vous en avez une déjà ou est-ce que vous êtes...
Alors,
vous avez juste les livres comme ça?
Non, j'en ai plusieurs, mais moi, je suis une grande déménageuse. Je déménage tout le temps. Et alors, des fois, c'est très grand, des fois, c'est tout petit. Voilà. Donc, je donne, mais je ne sais pas combien de centaines et de centaines de livres j'ai pu donner dans ma vie, mais c'est inimaginable. Et alors, j'ai un défaut, et je m'en veux à chaque fois, c'est que du coup, de déménagement en déménagement, je ne sais plus ce que j'ai. Et je passe mon temps à racheter des livres que j'ai déjà.
Vous avez en triple exemplaire.
Bon, voilà.
Madame Bovary, par exemple, vous l'avez
en... Ah non, Madame Bovary, c'est différent, parce que j'ai des éditions différentes.
Ah oui, vous collectionnez les éditions
j'aime bien.
De Madame Bovary.
J'aime bien, oui, parce que des fois, il y a des préfaces qui sont amusantes, où il y a le procès, voilà. Puis j'aime bien aussi savoir les vieilles éditions qui les a lues avant moi, enfin, bon, Madame Bovary, Flaubert, il a son coin. Il y a tellement de livres qui ont été écrits sur Flaubert, Madame Bovary. Donc, c'est des pièces de théâtre. Ça, j'aime beaucoup parce que voilà, ça enrichit cet amour-là. Après, j'ai beaucoup de Russes, parce que j'ai eu des périodes, fortes périodes russes. Donc, Dostoïevski, Tolstoï, Anna Akhmatova, Marina Tsvetaeva, Tchekhov. Voilà, ils sont immuables. C'est assez rigolo, d'ailleurs, quand on déménage tout le temps, comme moi, de voir ceux qui restent.
Ceux qui restent.
Voilà, parce que ça veut dire qu'on les aime beaucoup. Il y a Philippe Ross, évidemment. Il y a beaucoup d'Américains, Richard Powers. Enfin bon, il y a beaucoup de femmes aussi. Alors, je m'en veux un peu, mais j'ai fait des rayons par femmes. Alors, je trouve que c'est pas bien parce qu'on devrait se mélanger, mais en même temps, parce que c'est difficile, une bibliothèque. Est-ce qu'on sait par ordre alphabétique? Est-ce que c'est par pays? Est-ce que c'est par période? Donc, moi, j'ai un petit peu, pas totalement, mais j'ai un petit peu genré ma bibliothèque.
Ce qui compte, c'est de les retrouver.
Oui, c'est ça, j'y arrive pas.
Dans un instant, encore des livres, direction Vaucresson, en visite chez le libraire Thibaut Raden.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Retour dans La Voix est libre, toujours avec Véronique Olmy pour son nouveau roman Les évasions particulières. Vous le trouverez chez n'importe quel bon libraire et notamment à l'écriture, c'est à Vaucresson.
Bonjour Thibaut Raden.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous accueillir dans votre librairie d'écriture à Vaucresson. Cette fois, c'est nous qui nous déplaçons. Merci beaucoup. Alors, on fait un petit tour d'abord juste pour voir ce qu'il y a, ce qui vous a plu. Puis ensuite, on se fait votre gros coup de cœur. Alors, on commence par quoi?
On va commencer par un Tiphaine Le Gall, L'Arbre Vengeur. Ça s'appelle Une ombre qui marche. Et en fait, c'est génial. Ça parle, c'est une fausse biographie.
Vous avez mis du génie sur la petite fiche.
Oui, c'est vrai. Je trouve que c'est du génie parce que l'idée est géniale. C'est la fausse biographie d'un auteur donc qui n'existe pas et qui a écrit un livre qui a révolutionné le monde de la littérature, qui est un livre de 284 pages blanches. Et en fait, ça a tellement été surprenant comme bouquin que l'autrice se met dans la peau d'un de ses étudiants à ce gars-là et fait une étude de sa vie et de son œuvre. C'est superbe.
Mais l'auteur n'a jamais existé, donc.
Non, il n'a pas existé du tout, sauf qu'en fait, elle prend en référence Montaigne, Flaubert. Et du coup, ça a beaucoup de sens. On a presque l'impression qu'il existe vraiment. Et avec ça, c'est une étude vraiment sur la littérature, sur ce qu'on aime. C'est une éloge du vide ou du rien. On peut le prendre comme on veut. Mais c'est vraiment, c'est hyper intéressant.
Parfait. Tiphaine Le Gall.
Ouais, Tiphaine Le Gall, L'ombre qui marche à L'Arbre Vengeur.
Superbe éditeur, L'Arbre Vengeur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
On a Rien pour demain aussi, de Bruno Remori, c'est chez Corti. C'est le même auteur qui a fait Le Monde Horizontal, qui était déjà un livre superbe. Et donc là, il continue sur sa lancée dans son genre de récit-roman historique, où il vous parle de choses qui existent et de choses qui n'existent pas, inventées ou pas. Et là, il vous fait une espèce d'étude sur le temps avec un grand T. Comment est-ce qu'on le perçoit? Comment est-ce qu'on l'apprivoise? Qu'est-ce que ça change pour nous? Et voilà, et donc là, c'est Rien pour demain, c'est une doctrine bouddhiste et c'est super. Vous avez absolument toutes les émotions qui passent dans un livre qui est très court et vraiment toujours très bien écrit.
Alors, Tiphaine Le Gall, Bruno Remory sur la grande table de la rentrée littéraire. C'est quoi votre gros coup de cœur en ce moment là?
Mon gros coup de cœur, c'est un manga de Satoshi Kon qui s'appelle Le Pacte de la mer. C'est chez Epicagraphique et en fait, c'est une réédition. Il était épuisé, il le réédite. Et grand bien nous en fasse parce que franchement, Satoshi Kon, c'est un des plus grands mangaka qui ait pu exister. Il est mort très jeune, il a aussi fait des films, il est plus connu pour ça d'ailleurs, mais ses mangas sont superbes. Au même niveau que peuvent l'être les grands classiques comme Akira ou Blame ou les Astro Boy, tout ça, ce sont des mangas qui, en fait, qui sont aussi littéraires et aussi puissants que n'importe quel livre.
Là, la couverture est impressionnante. Hein. On voit un type avec la chemise complètement ouverte sur un fond bleuté. C'est très beau.
C'est ça. En fait, l'histoire, en plus de ça, elle est actuelle alors qu'elle a été faite il y a quand même quelques temps. C'est un jeune garçon qui habite dans un grand village, une petite ville au bord de mer, et qui est héritier d'une tradition où, en gros, dans un temple, il y a un œuf, ce serait un œuf de sirène. On ne sait pas si c'est vrai, mais voilà, toute la mythologie fonctionne autour de ça. Et cet œuf de sirène, il faut en prendre soin, parce que si on n'en prend pas soin, il va se passer des choses avec la mer. La mer va être en colère et va tout ravager. C'est pour ça que ça s'appelle le pacte de la mer, c'est que cette famille a conclu un pacte et a décidé de protéger en fait cet œuf de sirène. Sauf que le père de jeune garçon est un entrepreneur qui a de grandes idées pour sa ville, pour rameuter des gens, pour le tourisme, l'économie, tout ça. Et donc, pour ce faire, il va aussi utiliser cet œuf, cette mythologie, pour ramener des gens, pour faire en sorte que le financement puisse se faire et tout ça. Ils vont montrer cet œuf. Sauf qu'il y a un de ces gars-là qui arrive et qui a peut-être des vues, en fait, sur cet œuf. Et à partir de là, se déclenche une aventure qui est géniale, hyper bien faite, écologique, puissante. Enfin, c'est un grand manga, c'est de la grande littérature. C'est très, très beau.
Merci de nous faire lire des mangas toujours, Thibaut Raden. Ça nous change aussi un peu.
C'est un plaisir. C'est vraiment c'est une littérature qu'on ne connaît pas parce qu'on ne pense pas que ce soit de la littérature. Or, ce n'est pas vrai. Et il y a tellement de trésors là-dedans, vraiment, dans le manga et du trésor. Et il ne faut vraiment pas hésiter du tout.
Et ne pas hésiter à venir le chercher à la librairie L'Écriture de Vaucresson. Merci beaucoup, Thibaut.
Merci, Nicolas.
Retour à Europe 1 avec Véronique Colny. On change de rayon, on va parler littérature jeunesse avec Victor Dolande. A tout de suite.
Il était une fois.
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 Et comme chaque semaine, on retrouve le conseil littérature jeunesse de Victor Dolande. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Aujourd'hui, oula, c'est beau ça, c'est un album intitulé Alice et Alex de Claire et Hugo Zaorski.
Oui, j'ai décidé de vous parler d'amour aujourd'hui Nicolas.
Quand
je suis d'humeur romantique, je vous embarque dans une contrée lointaine qui n'est d'ailleurs jamais mentionnée par les auteurs, inutile. Une femme blonde, le rose joue, très belle, un homme, mat de peau, très élégant, quelques taches de rousseur. Ils ne se connaissent pas et se rencontrent chez le couturier. Ils viennent, assez banalement, commander des vêtements pour l'été. Tous les deux au comptoir, ils se regardent puis sourient. Ils doivent revenir une semaine plus tard pour récupérer leur garde-robe, une semaine donc qui les sépare de leur retrouvaille.
Et qu'est-ce qui se passe pendant cette semaine?
Dans les premiers jours, ils reviennent chez eux, ils font preuve de maladresse, comme si un mal étrange s'était emparé d'eux. Ils vont chacun de leur côté voir un médecin, les yeux qui pétillent, le cœur qui palpite, un peu de fièvre et un sourire béat. Vous me voyez venir? Non, c'est pas un coup de froid, c'est bien un coup de foudre. Claire et Hugo Zaorski, les auteurs de cet album, ensemble dans la vie, ont voulu écrire l'histoire d'une rencontre parfaite pour une raison assez simple finalement, écoutez.
On aurait aimé que l'histoire qu'on allait raconter soit romantique, poétique, mais malheureusement, c'est une histoire d'amour moderne, la nôtre. Donc c'est une histoire qui commence sur Tinder.
Effectivement, nous, moi, enfin, en tout cas, j'ai beaucoup écouté les histoires de ma grand-mère qui me raconte toujours avec beaucoup de romantisme sa rencontre avec mon grand-père à la plage. Enfin, il y a vraiment une histoire de nos grands-parents en règle générale qui nous transcende vraiment. Et quand on compare à la nôtre et à la plupart des nôtres aujourd'hui, même de nos amis de notre génération, il y a un gap qui est assez flagrant entre ces deux façons de se rencontrer. Et donc voilà, on s'est dit qu'on allait réinventer la rencontre, la nôtre. Pourquoi pas, mais celle de tout le monde dans un monde qui nous parle d'autant plus.
À l'ancienne. Et à quel âge, à partir de quel âge peut-on lire ce livre, Victor ?
Alors, c'est un album qu'on peut lire à ses enfants à partir de 5 ans sans problème. C'est très beau, très romantique. Les illustrations de Claire Zahorski, pleines de couleurs, pleines de vie, c'est très luxuriant. Ces dessins donnent encore plus de force au romantisme de cette rencontre. Une manière aussi de réécrire une rencontre qui ne leur a pas forcément autant plu, ils auraient voulu imaginer autre chose. Un album qui franchement vous donne énormément le sourire et qui fera aussi sourire vos enfants. C'est un gros, gros coup de cœur en cette rentrée.
Et on rappelle le titre, Alice et Alex de Claire et Hugo Zahorski. C'est aux éditions Sarbacane. Magnifique. Merci beaucoup Victor.
À la semaine prochaine Nicolas.
Salut. Véronique Olmy, vous vous souvenez du premier livre que vous avez lu? Pas forcément en littérature jeunesse d'ailleurs.
Alors, le premier livre, c'était le livre cartonné avec des images, c'était « Oui, oui, chauffeur de taxi ». Et je m'en souviens parce que c'est une époque sans télévision, sans tout ça, en tout cas chez moi. Et le soir, voilà, chacun lisait. Et je me souviens de mon bonheur de dire « Je l'ai lu en entier ». Alors après, le deuxième stade, c'est de lire des livres sans images. Ça, ça paraît incroyable. Et ensuite...
Et parce que il y avait quelques images.
Ah bah oui, il y a beaucoup d'images quand même. Vous savez, c'est comme les premières Comtesses de Ségur. Moi, j'ai adoré ça. Mais alors, j'étais une folle de la Comtesse de Ségur. Et je me suis rendu compte après, dans une brocante des dizaines d'années après, que finalement, le théâtre venait aussi de là. Parce que la Comtesse de Ségur, vous avez les dialogues, Madeleine, Camille, Sophie. Et c'est vraiment, de temps en temps, vous avez une petite didascalie, quoi. Et je me suis dit, ah, mais c'est marrant, j'avais jamais fait attention, mais l'amour du dialogue vient de là aussi, de cette influence de la Comtesse de Ségur. Moi, j'étais toujours du côté de Sophie et pas de Paul. Et je me souviens, mon frère me disait, mais non, mais c'est Paul qui a raison. Je disais, mais non, mais c'est elle, il est insupportable, il m'agaçait, il était tellement parfait. Et ensuite, plus tard, sont venus, mais je crois, les livres que toutes les ados lisent, Autant d'emporte le vent, Les Sœurs Brontë. Mais le premier roman qui m'a coupé le souffle, qui m'a stoppé, qui m'a vraiment changé, c'est L'Idiot de Dostoïevski.
À quel âge ?
Je pense que j'avais 12-13 ans.
Oula, oui.
Eh bien oui, mais j'étais fière parce que je me disais, c'est difficile à lire. Je m'étais faite une fiche parce qu'il y a les noms, les patronymes, les surnoms, les diminutifs.
Il y a bien 1000 pages.
Oui, mais justement, tout d'un coup, c'est... Je dis que c'est le premier important parce que c'est justement ça. Il y a deux tomes et c'est tout d'un coup une plongée et on se dit, j'y ai droit.
Merci beaucoup, Véronique Olmy, de nous avoir accordé... Une heure de votre temps. Les évasions particulières, c'est le titre de votre nouveau roman chez Albin Michel. Merci beaucoup, Véronique.
Merci à vous.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresses. Merci à Boris Paczynski, bien entendu, l'homme aux doigts de fée. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre. Nicolas Carreau.